La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, adoptée en juillet 2010, impose de nouvelles obligations en matière de qualité nutritionnelle des repas dans la restauration scolaire. Un programme national pour l'alimentation qui concerne tous les établissements du premier et du second degré, aussi bien public que privé, ainsi que l'université. Sur le fond, rien de vraiment nouveau. La loi et son décret d'application, qui viennent tout juste d'être publiés, reprennent les recommandations nutritionnelles de 2007 du GEMRCN, groupe d'études des marchés de la restauration collective et de la nutrition, ainsi que les orientations du programme national Nutrition Santé de 2001. Mais les textes fixent pour la première fois un cadre obligatoire qui était réclamé par les représentants de parents d'élèves et le Conseil national de l'alimentation. Éric Zunino, le sous-directeur du service qualité à la Direction générale de l'alimentation, explique les objectifs de cette loi. Jusqu'ici, les recommandations nutritionnelles étaient mal appliquées.
Les objectifs en fait recherchés à travers les futurs textes sont principalement de faire respecter de façon uniforme et obligatoire en l'occurrence l'ensemble des règles nutritionnelles qui ont été définies sur la base d'un référentiel technique afin d'obtenir dans l'ensemble des écoles et des lycées une qualité nutritionnelle des repas servis aux enfants et aux jeunes adolescents. Depuis 2001, ces référentiels techniques en matière nutritionnelle étaient volontaires. Il s'agissait de recommandations. Et le problème, c'est que l'ASSA, dans une étude de 2006-2007, a mis en évidence le fait que ces recommandations étaient, un, relativement mal connues, deux, très mal appliquées.
Ces textes tendent à informer et à éduquer dans un pays où l'obésité touche 3,5% des jeunes de 3 à 17 ans. Ce fléau fait partie des raisons qui ont poussé le ministère à définir cette nouvelle politique de l'alimentation. Éric Zunino.
Ce n'est pas un problème sanitaire au sens sécurité sanitaire. Par contre, c'est vrai que ça s'inscrit dans le cadre d'une tendance où effectivement on a constaté une augmentation de la prévalence de l'obésité, notamment chez les enfants. Donc c'est pour répondre à cette situation, à cette tendance de fond et dans une démarche plus globale de la part de notre ministère qui est d'essayer de mettre en place une nouvelle politique de l'alimentation pour avoir une approche globale, donc certes sur une base nutritionnelle, mais aussi éducative, informative, auprès de différents publics et principalement vis-à-vis des jeunes.
Les nouvelles obligations relèvent de trois aspects principaux. La composition des repas, ils doivent inclure par exemple suffisamment de calcium, de fer ou encore de fibres. Le grammage des portions et la fréquence d'apparition minimum ou maximum de certains aliments calculés sur la base de 20 repas consécutifs. La question des grammages a constitué le plus gros point d'achoppement pour rédiger les textes. Il fallait répondre aux recommandations du GEMRCN tout en tenant compte des contraintes technologiques des fabricants et des contraintes économiques des gestionnaires. Finalement, les textes ont seulement ciblé quelques aliments phares, comme les cordons bleus. Les nutritionnistes et les diététiciens voient d'un très bon œil ces nouvelles contraintes. Marilyn Huck fait du conseil auprès des crèches, des municipalités, des lycées et des maisons de retraite. Elle salue l'approche complète de la loi.
C'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait des exigences en matière d'hygiène. Il nous semblait légitime aussi d'avoir des exigences en matière de nutrition. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, on ne travaille pas uniquement sur des grilles de menus, mais on travaille sur la qualité des achats, sur la qualité culinaire. On travaille aussi sur l'environnement du temps de repas, sur l'éveil sensoriel, sur la saisonnalité. Donc tout ça, c'est dans ce texte. Donc ça me semble être une évolution logique. On colle aux objectifs du programme national nutrition santé, donc valoriser les groupes d'aliments intéressants pour leur densité nutritionnelle et limiter, mais ne pas supprimer, simplement limiter les plats qui sont gras et sucrés.
Mais la diététicienne relativise l'importance des repas scolaires dans les habitudes alimentaires, même si elle reconnaît qu'ils auront le mérite de donner aux jeunes des repères.
Pour un enfant, effectivement, s'il fait toute sa scolarité, il va passer 15 ans à l'école, donc ça représente quelques milliers de repas, mais en aucune façon, ça va influer de façon définitive sur ses habitudes alimentaires. Mais en tout cas, ça donne un cadre, ça donne des pistes, et peut-être aussi ça permet pour certains de découvrir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger à la maison. Par contre, ce qui est peut-être intéressant, c'est d'imaginer de réintroduire des ateliers cuisine durant les heures d'école pour peut-être pratiquer. On voit bien que c'est quand même par une rencontre émotionnelle qu'on imprime peut-être le plus d'envie.
Le programme national pour l'alimentation prévoit quelques mesures éducatives, notamment la mise en place de classes du goût pour les élèves. Pour Laurence Vignier, secrétaire générale adjointe du GECO, une organisation d'industriels spécialisée dans les marchés de la restauration, la pédagogie est primordiale. Elle regrette que les formations ne soient pas obligatoires pour les gestionnaires de cuisine.
Il faut que tout le monde se mette un petit peu en marche. Il faut que les cuisiniers
apprennent aussi à reconnaître les valeurs nutritionnelles des produits, à faire les choix, qu'ils fassent leur propre fiche recette pour essayer d'établir leurs valeurs nutritionnelles quand ils vont cuisiner eux-mêmes leurs produits. Ce qui est dommage, si vous voulez, c'est qu'il n'y ait pas de formation obligatoire en nutrition pour tout gestionnaire et responsable de cuisine, qu'il n'y ait pas eu des demandes de vacations diététiciens, diététiciennes, de professionnels de la nutrition pour les accompagner, parce que pour respecter ces exigences, il faut quand même avoir des bases solides. Hein. Puis il faut aussi parler nutrition avec les consommateurs, il faut leur expliquer.
De leur côté, pour s'adapter, les industriels ont retravaillé leurs recettes sur la base de nouveaux process, sans oublier la notion de goût. Selon le GECO, ces nouvelles règles représentent pour eux une chance. Jusqu'ici, ils devaient composer avec un marché à deux vitesses. Laurence Vigné.
C'est un défi, c'est une opportunité. Ce qui est plutôt positif pour eux, c'est que jusqu'à maintenant, le marché fonctionnait en fait à deux vitesses, entre des restaurateurs qui appliquaient ces recommandations, et puis ceux qui n'en avaient pas ou peu connaissance, d'où des difficultés parfois pour les industriels à commercialiser les produits qui répondaient aux critères nutritionnels demandés.
La GORES, l'association des directeurs de la restauration municipale, anciennement appelée ANDRM, accompagne les collectivités dans ce changement de paradigme grâce à des outils. Depuis 2008, on peut par exemple créer en ligne des menus conformes sur le site de l'association. La GORES n'est pas responsable de la formation des collectivités, mais elle y participe, comme l'explique Anne-Guylaine Périllon, la vice-présidente.
Les formations, c'est le rôle du CNFPT, du Centre National de Formation de la Fonction Publique Territoriale. C'est lui qui propose les formations à destination des collectivités. Et nous, à NDRM, en fait, on collabore régulièrement avec lui pour expérimenter et puis mettre au point ces formations. On avait été sollicité pour la constitution d'une mallette pédagogique, en fait, qui donnerait tous les outils pour l'application du GEMRCN, en fait. Il y avait des formations à destination des élus, des gestionnaires, des cuisiniers, et puis des agents qui sont sur le terrain qui distribuent les repas. En fait, il y avait vraiment tous les aspects de la fabrication et de la distribution des repas en restauration collective qui étaient dans cette mallette.
La priorité pour les collectivités, c'est de gérer leur budget. De nombreuses petites structures craignent que les nouvelles exigences représentent un gouffre financier. Certaines d'entre elles anticipent depuis quelques années, mais d'autres auront à trouver des solutions pour équilibrer leurs coûts. Anne-Guylaine Périllon en connaît quelques-unes.
Raisonnablement, on peut compter que le coût des matières premières pour un repas en restauration collective conforme aux recommandations nutritionnelles doit avoisiner les 1,80€. Ces collectivités qui sont à 1,20€, 1,30€ par repas, on peut imaginer qu'elles sont pas forcément encore tout à fait au point au niveau du respect des recommandations. Et ça va être à nous de leur proposer des outils pour trouver des voies d'économie sur les grammages, par exemple. L'adaptation au plus juste des grammages aux consommations des enfants va forcément permettre de limiter les gaspillages et ainsi trouver des sources d'économie.
La GORES a mis en ligne une foire aux questions destinées aux collectivités. Celles-ci auront la possibilité de suivre des formations, tout comme les gestionnaires de cuisine. Quoi qu'il en soit, les petites communes qui servent moins de 80 repas par jour auront un an pour s'adapter aux nouvelles dispositions. Elles pourront faire financer la formation de leurs cuisiniers par le ministère. Restera ensuite à étendre ces nouvelles obligations nutritionnelles aux crèches, aux maisons de retraite et aux hôpitaux. Un défi, surtout dans les établissements pour personnes âgées, car selon certains experts, les budgets actuels sont faibles et très inadaptés au problème de la dénutrition qui touche cette population.